France Musique.
Classique Info, Sophie Anastasio, bonjour.
Bonjour
Sophia.
Mathis.
Autre flûtiste et chef d'orchestre, Alexis Kossenko, il devient directeur musical de la grande écurie La Chambre du Roi.
Une nouvelle dont il a fait part avec fierté, joie et émotion, celle de marcher dans les pas de Jean-Claude Malgoire, fondateur de l'ensemble qui nous a quittés en avril 2018. Alexis Kossenko prendra la direction musicale de l'orchestre à partir de l'année 2020 et sur sa page Facebook, il dévoile déjà certains projets à venir, la messe en si de Bach pour 2020 ou encore le songe d'une nuit d'été de Mendelssohn en 2021.
Maris Jansson se fait son grand retour sur les podiums.
Après avoir annulé toutes ses représentations cet été sur les conseils de son médecin, le chef letton, âgé de 76 ans, a dirigé à nouveau ce week-end. Il était à la tête de l'orchestre symphonique de la radio bavaroise à Munich, aux côtés de la soprano Sarah Wegener. Comme tous les lundis, c'est l'heure de la chronique écho d'Antoine Péquer. Bonjour Antoine.
Bonjour Sophia, bonjour Jean-Baptiste.
Et dans votre billet écho ce matin, vous vous intéressez au Portugal où la semaine dernière, le Premier ministre Antonio Costa a obtenu une large victoire aux élections législatives.
Effectivement, Antonio Costa qui est à la tête, Sophia, d'une alliance inédite en Europe réunissant socialistes, verts et communistes. Imaginez en France un courant allant de la social-démocratie au marxiste, tout simplement impensable. Au Portugal, ça fonctionne et même très bien. C'est donc l'ancien maire de Lisbonne, Antonio Costa, qui est devenu Premier ministre en 2015 et 4 ans plus tard, le bilan de sa coalition est largement positif, ce qui explique donc sa réélection. Le taux de chômage est aujourd'hui de 6,4%, c'est-à-dire le niveau d'avant la crise, et il est arrivé à augmenter le niveau des retraites et les salaires des fonctionnaires, tout en réduisant le déficit public à seulement 0,2%. Il y a donc une troisième voie possible en Europe entre libéralisme et populisme.
Et la culture est un autre axe fort de sa politique.
Fini la cure d'austérité imposée par la droite après la crise. Au cours de ces 4 dernières années, le budget alloué à la culture a augmenté de plus de 40% unique en Europe. Et surtout, ce qui était un simple secrétariat d'État est devenu un ministère de la culture à part entière. Les priorités du ministère sont la démocratisation, mais aussi la décentralisation, ne plus concentrer toutes les dépenses culturelles à Lisbonne.
La musique est directement concernée.
Le gouvernement d'Antonio Costa a créé le statut des orchestres régionaux. Il fallait réduire le fossé entre les orchestres de la capitale et ceux en région. Pour vous donner une idée, les salaires des musiciens en fonction des formations peuvent varier de 1 à 10. La rénovation tant attendue du Conservatoire de Lisbonne a pour sa part enfin été lancée. Par sa vétusté, cette institution illustrait à l'extrême le Portugal des années de la crise. À l'échelle du pays, le nombre d'établissements d'enseignement consacrés à la musique est passé en 20 ans de 50 à 130.
J'imagine que tout n'est pas rose pour autant, Antoine.
Et nous, on l'a encore vu à la rentrée avec la grève à l'Opéra de Lisbonne au sujet de l'harmonisation des salaires. De manière globale, il y a encore un manque de salles de concert, d'équipements contemporains dans le pays, hormis bien sûr la géniale Casa da Musica, à voir absolument à Porto, un bâtiment construit par Rem Koolhaas. En attendant, les artistes portugais triomphent à l'étranger, comme on l'a encore vu ces derniers jours avec le metteur en scène Tiago Rodrigues, le directeur du Théâtre National de Lisbonne, qui était l'invité du Festival d'automne. Il est, Sophia, je pense, l'un des metteurs en scène les plus captivants à l'heure actuelle.
Merci beaucoup Antoine pour cette chronique. On vous retrouve la semaine prochaine et c'est toujours en partenariat avec la Lettre du Musicien.
Dans l'actualité musicale également, l'Orchestre symphonique de Toronto a reçu un don plutôt généreux.
10 millions de dollars canadiens, soit près de 6 900 000 euros. Un don historique pour l'ensemble dirigé par Andrew Davis, qui provient des héritiers d'un couple historique de mécènes et de grands admirateurs de l'orchestre, Tom et Mary Beck.
Très généreux. Et on termine avec l'odeur du Théâtre du Châtelet, disponible en flacon.
Un mois après sa réouverture, le théâtre lance son propre parfum en partenariat avec la maison japonaise de mode Comme des Garçons. Une première dans le monde du théâtre, peut-on dire dans le journal Le Parisien. Baptisé « Odeur du théâtre du Châtelet », acte 1, cette fragrance présente des accords poudrés pour évoquer les fauteuils en velours, des notes de fleurs d'oranger pour celles des machines fumigènes ou encore de cèdre pour l'atmosphère mystique du lieu, nous décrit le journal Le Figaro. Et elle est en vente pour 120 euros à la billetterie du Théâtre du Châtelet.
Quand même, 120 euros avec un drôle de nom, quand même, odeur du Théâtre du
pour
Châtelet.
Pour sentir un fauteuil en velours, ça n'est rien.
Sophia Anastasio, Classique Info, à retrouver dans la rubrique Actualité Musique. Ces infos de francemusique.fr. À demain.
À demain, bonne journée.
Bonne journée.
À réécouter sur francemusique.fr.